Vous êtes sur Simone On Air.
Émission spéciale sur la transmission du vécu de la Première Guerre mondiale, présentée par les premières 108 du lycée Simone Veil de Liffré. Pour en savoir plus sur le thème de l'émission, nous vous proposons pour commencer une petite introduction et un micro-trottoir dans les couloirs du lycée.
Bonjour à tous. Cela fait 110 ans que la Grande Guerre, la guerre 14-18, aussi surnommée la Der des Der, a débuté. Et pourtant, ce sujet est toujours d'actualité. Il est omniprésent. Partout autour de nous, la malédiction de la guerre nous suit. Lorsqu'on allume la radio, qu'on regarde la télé, sur les réseaux sociaux, et surtout en raison de la guerre en Ukraine ainsi qu'en Palestine. En parallèle à ces deux conflits modernes, la Première Guerre mondiale soulevait déjà des problématiques similaires, comme la réalité sur ce que vivent les soldats et les civils à cause de la guerre. Violence, misère, blessures invalidantes, perte d'êtres chers. Plus de 20 000 morts palestiniens depuis 3 mois et plus de 50 000 blessés. À une autre échelle, 20 millions de morts civiles et militaires pendant la Première Guerre mondiale.
Une question importante se pose encore, et se posait déjà concernant la guerre, celle de transmettre le vécu des personnes qui l'ont connue. Il n'y a plus de témoins directs. La Tsar Ponticelli était le dernier poilu. Il est mort en 2008. Il ne lui reste donc que des documents écrits et de la transmission orale indirecte. Nous avons d'ailleurs étudié certains de ces documents à travers un parcours pédagogique traitant de la mémoire de la guerre et lors d'un atelier aux archives départementales de Rennes. Ce thème du programme Histoire nous a conduit à nous interroger sur la manière dont le vécu des populations, aussi bien des soldats sur le front que des civils à l'arrière, nous a été transmis.
Lundi 5 février 2024, micro-trottoir dans les couloirs du lycée. Quels sont les mots qui vous font penser à la Première Guerre mondiale ?
14-18.
14-18.
14-18 et guerre des tranchées.
La triple alliance, la triple entente.
Guerre, mort.
La mort, femme abandonnée, tranchée.
Poilu.
Okay. Garde de position, poilu, tranchée.
Les guerres, violence, haine, hargne. Les femmes battues, les femmes retenues dans les usines pour fabriquer des balles, pour que les hommes partent à la guerre. Je pense aux tranchées, aux gueules cassées. Tous ces éléments sont des éléments qui me font penser à la guerre.
Par quel biais avez-vous appris le contenu de la Première Guerre mondiale ?
Alors, ce qui m'a appris tout ça, c'est l'école.
Grâce aux biographies et aux cours d'histoire.
Témoignages, les lettres, les journaux.
Avec les devoirs de mémoire. Genre avec les écrits, les témoignages et tout ça.
Avec des documentaires sur la Première Guerre mondiale. Ou en interrogeant les personnes... Les personnalités qui étaient encore vivantes il y a peu.
Travers les films, voilà, les chansons aussi, un petit peu, bande dessinée, livres, l'école évidemment, et les archives nationales aussi. C'est assez stylé pour apprendre tout ça.
Selon vous, est-ce que l'art est un bon moyen pour raconter l'histoire ?
Oui, parce que, par exemple, avec la peinture, ils pouvaient mettre leurs émotions et tout. Et à l'époque, ils n'avaient pas trop le droit de s'exprimer.
Mais ça peut aussi... ça peut aider, mais ça peut ne pas tout faire de transcrire quand même.
Bah non, du coup, parce que on a déjà étudié pas mal de tableaux sur les arts de la guerre mondiale et ça transmettait absolument rien. C'est beaucoup moins détaillé et expliqué que certains documentaires.
Ouais, évidemment, quand on voit quand on voit les tableaux réalisés par des artistes... anciens soldats, les poilus et tout. C'est des trucs qui te plongent assez rapidement, par exemple, dans les tranchées ou l'impact psychologique des tranchées sur les soldats de 14-18. Voilà,
Pierre
au
Lemaitre.
Revoir là-haut, c'est ça que je cherchais.
De Pierre Lemaitre.
Ok. Ouais, sinon, accessible pour les enfants, que tu peux lire en étant un peu plus vieux aussi, qui est sorti assez récemment. La guerre des Lulus en bande dessinée, qui est plutôt pas mal, qui a été adapté aussi en film. Je trouve ça assez cool pour montrer un petit peu le quotidien, pour le coup. Pas les tranchées, le quotidien des gens pendant la guerre, les changements de frontières, la peur de l'invasion, etc.
T'as joué Joyeux Noël aussi
Ah, Joyeux Noël, il est trop bien.
Ouais, très bon film aussi.
Plus grosse séance de cinéma la plus mémorable de ma vie.
C'est vrai voilà. Que diversifier comme ça les supports, c'est un avantage accessible. Puis continuer le devoir mémoire à travers
Des
cérémonies.
Et puis à l'Ouest, gros classique.
À l'Ouest, rien de nouveau. Ouais.
Voilà. Puis, et bah, tu vas voir, il y a un vieux film, mais il y a un nouveau film qui est sorti qui est sur Netflix, une production un peu hollywoodienne actuelle, quoi. Donc voilà. Si vous travaillez sur la Première Guerre mondiale en ce moment, regardez-le, il est cool. Encore une fois, soldat, mais et pas vie quotidienne, mais bien stylé.
Vont suivre un reportage sur le vécu d'un poilu au front et une interview fictive sur la vie des femmes à l'arrière à partir de documents trouvés aux archives départementales d'Ille-et-Vilaine lors de notre visite le 27 novembre 2023.
Au cœur de l'histoire.
En campagne, le 15 janvier 1916. Mon cher directeur, enfin me voici arrivé au front encore une fois. Cela fait alors la cinquième que je remets cela. En ce moment, nous sommes au repos en arrière de Suippes, dans des baraquements où il ne fait pas trop chaud. Je ne sais pas si ce sera la dernière, mais il faut l'espérer. Car si je retourne pour une sixième fois, je pense que ce sera fini.
Quand on veut reconstituer le passé, il faut revenir aux sources. Avec notre classe, nous nous sommes rendus aux archives départementales d'Ille-et-Vilaine le lundi 27 novembre et avons travaillé sur des documents d'époque rendant compte à la fois du vécu des soldats au front et des populations civiles à l'arrière.
Pour notre reportage exclusif, nous nous plongeons profondément dans les archives des trésors historiques qui dévoilent de manière poignante le quotidien des poilus au front pendant la Première Guerre mondiale. Les archives permettent de conserver des documents qui ont une valeur sur le long terme. Elles permettent de transmettre l'histoire des événements passés. Notre exploration se concentre sur Victor Bouland, un soldat dont le parcours révèle les épreuves et les sacrifices endurés par ses héros méconnus. Les premiers chapitres de notre plongée temporelle nous guident à travers les archives militaires où le dossier de Victor Bouland dévoile ses lettres manuscrites depuis les tranchées.
Le 15 novembre 1917. Monsieur l'inspecteur. Par ici, il fait un temps affreux. Toujours de la pluie. Toutes les rivières et ruisseaux débordent et nos fourmis sont pleins de flotte.
Victor Marie Bouland est né en 1892 et mort en 1941. Il débute son service militaire en 1913. Il envoie de nombreuses lettres au directeur des enfants assistés, car c'est sa référence. Il lui demande notamment de l'argent pour ses déplacements. En 1814, il exerce dans les camps militaires de Couette-Quidan. En décembre 1915, il fait un stage de mitrailleur pour se préparer au front. En janvier 1916, Victor Bouland est en période de repos avant de retourner pour la sixième fois au front en Champagne. Il raconte dans ses lettres que le ravitaillement se fait bien, mais que la vie est très chère. Tous les soldats sont épuisés et rêvent de rentrer chez eux afin d'être libres.
Tous les documents explorés aux archives nous ouvrent une fenêtre sur les pensées intimes du soldat, révélant les aspects déchirants de la vie quotidienne au front, mais aussi les moments de solidarité et de résilience qui émergent au milieu des difficultés. Les photographies d'époque, soigneusement préservées, offrent un témoignage visuel puissant de l'environnement dans lequel Victor a évolué. Les visages fatigués, mais empreints de détermination, les uniformes usés et les tranchées boueuses transportent le spectateur dans le contexte brutal de la Grande Guerre, faisant revivre ces moments cruciaux de l'histoire.
Naviguant à travers les journaux de marche, nous suivons les mouvements de Victor sur le front. En mars 1916, Victor Bouland est soigné à l'hôpital de Saumur. C'est sa cinquième blessure depuis le début de la guerre qui a été causée par un éclat d'obus. En novembre 1917, il quitte la France pour le front d'Orient à Salonique, en Grèce.
Sur place, il rencontre des soldats de nationalités différentes.
Ces documents précis révèlent les batailles acharnées auxquelles il a participé, les rares moments de repos, ainsi que les pertes déchirantes subies par son unité. Les archives médicales emmènent au cœur des épreuves physiques et psychologiques de Victor. Les rapports détaillent les blessures subies et les traitements endurés, mettant en lumière la réalité douloureuse de la guerre et la remarquable résilience des soldats engagés dans ce conflit dévastateur.
Saumur, le 24 mars 1916. Mon cher directeur, je vous envoie cette petite lettre pour vous donner de mes nouvelles, qui est assez bonne pour le moment. Je pense que l'on va m'opérer un de ces jours, car j'ai un éclat d'obus de rester dans la cuisse droite et dans la main gauche.
Par ailleurs, en novembre 1917, Victor Bouland exprime qu'il en a marre car il est sur le front depuis 13 mois, sans aucune permission, mais il garde le moral car il est en bonne santé pour une fois. En décembre 1917, il quitte le front à cause de fièvre. Cela sera sa dernière hospitalisation car il sera soigné jusqu'à la fin de la guerre en 1918.
Enfin, les archives administratives nous dévoilent la trajectoire post-guerre de Victor Bouland. Les démarches pour obtenir des décorations, les tentatives de réintégration à la vie civile, ainsi que les récits poignants des camarades de combat, fournissent une conclusion émotionnelle et enrichissante à son histoire. Une fois la guerre terminée, ont lieu les commémorations. Les populations ont commémoré la fin de la guerre et rendu hommage aux victimes avec des monuments aux morts, des statues de poilus ou encore des livres d'or faits dans les lycées. Cela témoigne de la reconnaissance du peuple envers ses soldats.
Cette exploration minutieuse des archives nous permet d'éclairer non seulement la vie de Victor, mais aussi de nombreux autres soldats qui ont partagé des expériences similaires. Chaque lettre, chaque document devient ainsi un témoignage vivant de l'humanité dans l'ombre des tranchées, honorant ces héros méconnus qui ont forgé l'histoire collective de notre monde.
En direct de notre machine à remonter le temps,
nous sommes Jeanne
et Violette
et nous allons interviewer nos grands-mères qui ont vécu la Grande Guerre.
Edith qui était paysanne,
Marie qui était une munitionnette
et enfin Rosa qui était infirmière.
Dis-moi grand-mère, pendant que papy était à la guerre, toi, que faisais-tu ?
Moi je m'appelle Edith et pendant la guerre je suis restée à l'arrière. J'ai remplacé mon mari Lucien et mon frère Alain, partis au front, en travaillant dans les agricultures familiales. J'avais 22 ans au début du conflit et 2 enfants dont il fallait s'occuper.
Mon nom est Marie-Jeanne et j'habitais à Rennes avec mon mari avant que la guerre commence. Lorsque les hommes ont été mobilisés le 2 août 1914, par manque d'armes, de munitions et de vivres pour moi, dû à l'annonce de la mobilisation générale le 7 septembre 1914, certaines de mes amies et moi-même avons décidé de choisir de travailler à l'arsenal de Courroux en tant que munitionnette. On jouait un rôle crucial en fabriquant des munitions pour soutenir l'effort de guerre, le travail était souvent dangereux et exigeant.
Moi je m'appelle Rosa et pendant la Première Guerre mondiale, j'ai servi en tant qu'infirmière sur le front aux côtés de nombreuses autres femmes engagées dans l'effort de guerre. Mon rôle principal était de prendre soin des soldats blessés et malades.
Ah oui, donc en fait la vie n'était pas du tout facile pendant la guerre. Et qu'as-tu ressenti ?
Car cela devait être vraiment différent de ce que tu as connu quand grand-père était là, n'est-ce pas ?
Comme tout le monde au début, j'étais persuadée que c'était l'affaire de quelques mois, une année tout au plus. Au premier ticket de ration, ça nous a fait tout drôle, et les portions limitées se sont bien fait ressentir, surtout pour le pain, car c'était notre alimentation principale. Évidemment, on est resté patriote, mais du début jusqu'à la fin, c'est devenu de plus en plus compliqué.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé à travailler quelques mois après la mobilisation des hommes. Donc la première fois que je suis venue à l'arsenal afin d'y travailler, j'ai trouvé un quotidien très différent. Au début, je n'appréciais pas trop, car après avoir fini ma journée, il fallait que j'occupe de mon fils, de ma maison, comme avant la guerre. J'étais vraiment très fatiguée et le changement était trop brutal. Heureusement, comme toutes les femmes vivaient la même chose, et c'est ce que je pense m'a le plus émue pendant cette période, certaines ont pris l'initiative de créer des garderies afin que les autres puissent avoir moins de charges. C'est cette solidarité qui, durant cette monstrueuse guerre, m'a permis de garder foi en l'humanité.
Oui, en effet, la vie sur le front était très difficile pour nous tous. Les conditions étaient souvent insalubres, les ressources étaient limitées et l'atmosphère était lourde de tension.
Ça avait l'air si dur, mais as-tu connu des moments de bonheur ou pas du tout ?
Un moment de bonheur, en pleine guerre, recevoir les lettres et lire que tout allait bien. C'était une de nos seules sources d'informations dont on y croyait. Lire les exploits de papa et de tonton était la lumière des enfants. Les changements en faveur des femmes ont été quelque peu éclipsés par la fin de la guerre, mais c'était formidable aussi quand on les a remarqués après coup.
Vous savez, on travaillait dur à l'arsenal de la Courrouze, et les temps étaient plutôt sombres. Mais le 6 juillet 1917, mes collègues et moi-même avons décidé de créer un petit moment de bonheur. C'est l'anniversaire d'une amie très proche. Et malgré les restrictions et les préoccupations, nous avons organisé en secret une petite fête. Chacune d'entre nous avait apporté quelque chose, que ce soit une part de gâteau improvisé ou une friandise rare dénichée. On a réussi à créer une atmosphère chaleureuse, un moment de répit dans cette période difficile. C'est un acte de solidarité qui montrait que même au cœur de la guerre, l'humanité pouvait trouver des moyens de célébrer la vie.
Bien qu'ils aient été rares, il y avait aussi des moments de réconfort et de bonheur durant cette guerre, comme lorsque nous voyons les hommes se remettre de leurs blessures et retourner au front avec cette détermination renouvelée. C'était très émouvant de les voir sauvés.
Sur ces paroles, nous devons revenir au présent et mettre en pratique tout ce que nous avons appris, dans notre dissertation d'histoire pour la semaine prochaine, par exemple.
On partagera nos expériences avec nos amis.
Et maintenant, différentes rubriques sur les arts, chansons, BD, cinéma, tableaux, pouvant transmettre le vécu de la Grande Guerre.
Dans cette rubrique de l'émission, nous allons vous présenter la guerre en chansons. Nous allons comparer deux chansons, la première est celle de Craon, qui sera présentée par Laura, et la deuxième est celle de Georges Brassens, la guerre de 14-18, présentée par Noélie. Avant de donner la parole à notre experte, nous allons écouter un extrait de la chanson de Craon.
Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés.
Et donc Laura, pouvez-vous nous en dire plus sur votre chanson ?
Cette chanson a été créée par les Poilus, dans les tranchées, vers 1915-1917, mais on ne connaît pas exactement son auteur car il est resté anonyme. Elle témoigne de la lassitude et de la souffrance des soldats. On assimile d'ailleurs souvent cette chanson aux mutineries de 1917. Avant, les soldats la chantaient avec retenue, de manière pas vraiment assumée. Ce n'est qu'avec l'offensive du Chemin des Dames en 1917, donc, qu'elle a commencé à être chantée avec fierté, notamment par les soldats qui refusaient d'aller combattre.
La chanson « La guerre de 14-18 » dénonce également les violences de la guerre et celles faites aux civils. Elle a été écrite par Georges Brassens, un auteur, compositeur et interprète français en 1962.
Ah oui, donc elle a été créée dans un contexte particulier.
Oui, en effet, elle a été composée à la fin de la guerre d'Algérie, qui est d'ailleurs évoquée dans la chanson. En effet, Brassens parle de guerre sainte, de guerre sournoise, qui n'osent pas dire leur nom, car à l'époque, la guerre d'Algérie ne portait pas le nom de guerre, alors que pourtant les soldats du continent y étaient envoyés pour combattre les membres du FLN. Cette guerre s'est d'ailleurs soldée par l'indépendance de l'Algérie.
Et nous allons donc maintenant écouter un extrait de la chanson.
Leurs faits d'armes sont légendaires, au garde à vous je les félicite, même aux colons celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18, même aux colons celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Bien sûr, celle de l'an 40 ne m'a pas tout à fait déçu. Elle fut longue et massacrante, et je ne crache pas dessus.
D'ailleurs, je connaissais le nom de Craon en tant que ville, mais pour ce qui est de la chanson, est-ce que Laura, vous pouvez nous en dire plus au sujet du titre ?
Ah bah, ça tombe bien que vous en parlez, parce que justement, j'allais vous en dire plus sur cela. Donc, depuis le début de son podcast, c'est vrai qu'on appelle cette chanson la chanson de Craon. Mais il faut savoir que ce n'est pas vraiment son nom d'origine. En 1915, premièrement, on l'appelait chanson de Lorette. Lorette étant une référence à une bataille ayant eu lieu de l'hiver 1914 à l'hiver 1915. Ensuite, on l'appelait chanson du fort de Vaux, lors de la bataille de Verdun en 1916. Et finalement, en 1917, elle prend enfin le nom qu'on lui connaît de chanson de Craon, en référence à une offensive du général Nivelle, lancée en avril 1917 aux alentours du village de Craon. Une offensive qui a d'ailleurs fait plus de 150 000 morts en une très courte période.
Et oui, aussi, ces deux chansons critiquent la guerre de deux manières différentes. Et nous allons donc maintenant demander à nos experts de nous en dire plus.
Oui, effectivement, déjà les rythmes sont différents. Pour la chanson de Craon, elle est plus monotone, avec un rythme plus triste et mélancolique. Son rythme d'ailleurs me fait penser à un rythme de valse, notamment au rythme de la valse. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la valse Bonsoir Mamour, une chanson populaire qui est sortie juste avant la guerre. D'ailleurs, c'est sans doute pour ça que les soldats fredonnaient aussi facilement à la chanson de Craon. Alors que votre chanson, Noélie, elle est plus joyeuse, avec un rythme plutôt dynamique.
Par contre, ces deux chansons ont également des points communs. Elles ont toutes les deux fait polémique. Dans celle que je suis venue présenter, Georges Brassens utilise l'humour noir et l'ironie pour tourner en dérision le culte des héros, mort pour la nation. L'auteur se moque du patriotisme aveugle des gouvernements français qui ont mené la France vers des guerres au succès parfois mitigé. Et c'est à cause de ce double sens que certains n'ont pas réussi à vraiment saisir le vrai but de cette chanson, qui a donc fait polémique. Elle a mal été comprise et parfois jugée irrespectueuse envers les combattants des guerres, alors que, comme l'a dit Brassens dans une interview en 1978, sa chanson suggère « vive la paix et non pas vive la haine patriotique ou nationaliste ». Il n'a jamais voulu froisser les poilus, qu'il considère comme des victimes, mais il a plutôt voulu leur rendre hommage. On voit que Georges Brassens dénonce les guerres avec ironie lorsqu'il fait le classement des guerres. Celle contre Spa, les guerres napoléoniennes, la guerre de 1870 puis celle de 1940. Ce classement a pour but de dénoncer les guerres et leurs violences, en particulier celle de 14-18, qui était une véritable boucherie.
Et oui, la chanson de Craon a aussi fait polémique. Elle a même été interdite par le commandement militaire pour son aspect pacifique en pleine période de guerre, donc ce qui est assez contradictoire. Ses paroles sont antimilitaristes, avec par exemple, je pense, aux « les petits chasseurs vont chercher leur tombe ». Et elles appellent également à la mutinerie avec « c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher ». Donc cette chanson, elle est restée interdite d'antenne jusqu'en 1974.
Et donc pour conclure, si vous nous avez bien écoutés, vous avez pu comprendre que ces deux chansons transmettent des valeurs pacifiques, mais de deux manières différentes. Une est plus ironique, tandis que l'autre est plus pathétique. Et elles sont aussi efficaces pour rappeler le vécu difficile des soldats pendant les guerres, pour qu'on se souvienne des blessés et des morts, et de ceux qui ont souffert et sont revenus brisés moralement. Durant quelques minutes, ces chansons nous transmettent la mémoire du sacrifice des soldats morts pour leur patrie, tout comme les monuments aux morts, ou même les cours d'histoire. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine.
Aujourd'hui, nous accueillons Chris, scénariste de bande dessinée, et Léo, dessinateur dans la même branche. Bonjour Chris.
Bonjour.
Bonjour Léo.
Bonjour.
Vous pourriez d'abord nous en dire un peu plus sur vous et votre parcours.
Je suis brestois, j'ai 50 ans, ça fait 22 ou 23 ans, je crois, que je fais de la bande dessinée depuis le début des années 2000, en tant que scénariste uniquement, pas dessinateur. J'ai publié une quarantaine d'albums, un petit peu plus maintenant, principalement récits historiques, et aussi beaucoup autour du sport, qui est un domaine qui m'intéresse, puisque j'ai longtemps pratiqué le football, le tennis de table, et comme à peu près tous les sports du monde m'intéressent, dès lors que c'est bien, c'est joué avec le cœur. Et puis, voilà, je suis éditeur également, toujours d'une collection consacrée au récit vrai de l'histoire du sport.
Je suis auteur de bande dessinée depuis 2016. Avant ça, j'ai surtout fait des effets spéciaux pour des films de long métrage et l'animation. Après une période de réflexion, je me suis dit que je pouvais très bien aussi raconter des choses en bande dessinée, parce que je dessine depuis toujours. Il a fallu trouver le bon projet pour démarrer, et ça a été la première BD qui s'appelle Chien Bleu Chien Gris.
Pourquoi avez-vous choisi de baser une partie de votre univers sur des thèmes historiques, notamment la guerre ?
À la fois, c'est difficile à dire parce que, aussi loin que j'ai des souvenirs, l'histoire m'intéressait. Dès que j'avais 5-6 ans, j'allais beaucoup à la bibliothèque parce que ma mère était bibliothécaire. Et en sortant de l'école, il y avait une bibliothèque à 3 mètres et donc il fallait que je prenne un livre à chaque fois, tous les jours. Et principalement des documentaires historiques ou des bandes dessinées historiques déjà. D'ailleurs, ma bande dessinée favorite à ce moment-là s'appelait Les Tuniques Bleues, était une bande dessinée historique que j'ai donc fini par reprendre bien plus tard. En analysant un petit peu ça, j'ai une famille qui a traversé à peu près tous les grands événements historiques du XXe siècle. Jamais à des postes de décideurs ou autres. Hein. Dans toutes les réunions de famille, il y avait beaucoup de récits comme ça plongés dans des événements qu'on lit dans les livres d'histoire. Mais sauf que moi, c'était mes oncles, mes tantes, mes cousins ou autres qui m'en parlaient. Donc l'histoire, chez moi, elle n'a jamais été uniquement livresque ou littéraire. Elle s'incarnait dans des gens qui étaient mes proches, en fait. C'était vraiment la chair de l'histoire. Je l'avais sous mes yeux et en parole à chaque réunion de famille. Donc sans doute, d'ailleurs, l'histoire que je raconte, c'est toujours l'histoire vécue par des gens plus bas. Enfin voilà, des gens à qui on ne donne pas toujours la parole, très loin de là. C'est les anonymes de l'histoire, mais c'est les grandes cohortes qui font les grands événements.
J'ai choisi de raconter la guerre et une partie de l'histoire contemporaine parce qu'en fait, je pense que c'est important de raconter le passé pour comprendre le présent. En fait, il y a beaucoup de choses, je trouve, qu'on vit aujourd'hui pour lesquelles on se pose pas assez les questions d'où ça vient. En fait, c'est pas un reproche que je fais à tout le monde, c'est quelque chose aussi que je constate pour moi-même. C'est-à-dire qu'il y a des expressions, il y a des façons d'envisager des problèmes et des choses comme ça que je vis aujourd'hui, mais je sais que maintenant, après avoir fait ce travail-là, ils sont hérités de choses du passé, quoi. Le XXe siècle est assez riche de ce point de vue-là parce que il y a eu deux conflits mondiaux qui ont un peu bouleversé la face du monde. Comme des ondes de choc, on en ressent toujours les résultats, quoi.
Quand vous travaillez sur un sujet historique, utilisez-vous uniquement votre imagination ou faites-vous des recherches ?
Non, il y a énormément de recherches. Après, Parfois, pour mieux raconter le réel, on est obligé de passer par la fiction parce qu'on ne peut pas être à tous les endroits, à tous les moments. On ne peut pas décrire tous les personnages, tous les secondes de chaque événement historique qui n'a jamais été vécu par un seul personnage. Donc on est souvent obligé de synthétiser finalement des choses vécues par plein de gens différents à l'intérieur d'un seul destin ou de deux ou trois destins uniquement. Donc on est souvent obligé de passer par la fiction, mais pour être plus juste en fait, on n'est pas exact. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'être exact. Personne ne pourra jamais être exact sur un événement, surtout à 100 ans de distance, des fois même bien plus que ça. Ce qui m'intéresse, c'est d'être juste par rapport à ce qui a été vécu par les gens de l'époque. Donc voilà, il y a énormément de recherches documentaires d'abord, et ensuite, on arrête et on ouvre les vannes de la fiction à partir de là.
Ah non, il y a beaucoup de recherches. Surtout quand on parle d'un sujet historique, il faut surtout éviter de raconter des choses erronées ou anachroniques. On a besoin de raconter la réalité de l'époque. Alors après, il y a toujours ce qu'on appelle, entre guillemets, la licence poétique.
Oui.
C'est-à-dire de choisir de déformer une réalité, mais pour avoir du sens, de point de vue, on veut raconter quelque chose. Mais il faut quand même faire très attention. Parce qu'on sait très bien aussi que, surtout pour des périodes comme la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale, qu'il y a énormément de gens qui ont étudié ces périodes-là, qui en sont même, entre guillemets, fans, qui sont prêts à vous tomber dessus si jamais vous avez fait une erreur factuelle.
Pensez-vous que la BD soit un moyen efficace de transmettre le vécu de la guerre ?
Toutes les guerres ne se prêtent pas à écrire. C'est déjà pour pouvoir écrire, il faut quand même être statique, avoir du temps pour soi et tout ça. La guerre de mouvement qui a été la Seconde Guerre mondiale, par exemple, avec beaucoup plus d'événements, de déplacements, etc., était moins propice à engendrer moins d'écrits que la Première Guerre mondiale, qui était beaucoup plus statique dans les tranchées et qui était vécue massivement pour la première fois par une population éduquée, qui avait appris à lire et écrire. C'est pas le cas des campagnes napoléoniennes, par exemple. La meilleure façon de comprendre, et évidemment de raconter à ceux qui ne vivaient pas ce qu'ils étaient en train de vivre, c'était de passer par l'écrit. L'avantage de la bande dessinée, c'est qu'elle laisse énormément de place au lecteur pour combler les trous lui-même. Une bande dessinée, c'est quelques centaines de dessins, pas plus. Entre chaque dessin, le lecteur fait le lien entre chaque image et imagine tout ce qu'on montre pas, en fait, hors champ. Et donc, ça fait énormément appel à ce que vous connaissez d'un événement, ce que vous avez vécu. Si je vous raconte la guerre et que vous l'avez jamais vécu, c'est pas la même chose, évidemment, que si vous en avez une expérience intime. Et donc, finalement, la bande dessinée, elle laisse chacun avoir une lecture très personnelle. En fait, elle l'oblige, le lecteur, à s'impliquer.
On raconte une histoire de guerre, il faut essayer de faire ressentir autant que possible ce que les gens sont en train de vivre.
Cette espèce de vécu qu'on dit incommunicable. J'ai vécu la guerre en Irlande du Nord. Quand je raconte Coupures irlandaises, qui est un album autobiographique où je raconte ma guerre en Irlande du Nord, quand j'étais ado, je pense que quand même j'arrive à faire passer quelque chose à un ado de 14 ans aujourd'hui qui n'a jamais vécu la guerre.
Oui, absolument, parce que ça allie plusieurs formes d'art. Il y a l'écriture, bien sûr, mais il y a aussi la représentation graphique, picturale, du dessin qui est très importante, parce que les deux racontent l'écrit et le dessin, la couleur aussi, je trouve, mais ça permet quelque chose d'assez extraordinaire. Ça permet de raconter des choses différentes même. C'est-à-dire que le dessin peut raconter quelque chose de différent de ce qui est écrit dans les bulles. Et la couleur peut aussi raconter quelque chose en complément. Pour raconter, certains pourraient dire vulgariser, je trouve que c'est vraiment, vraiment important.
Connaissez-vous d'autres artistes qui transmettent le vécu de la guerre ?
Oui, énormément. Encore une fois, c'est terrible. Chaque conflit accouche souvent d'une génération de très grands artistes. Comme si chaque situation paroxystique, hein, de toute façon, met en scène des émotions tellement fortes qu'à un moment donné, il faut les traduire. La Première Guerre mondiale, on estime par exemple que dans les premiers mois de la guerre, entre août et décembre 1914, à peu près 300 écrivains français sont morts. Donc ils n'ont pas eu le temps d'écrire sur la guerre, ou quasiment pas. Par contre, cette guerre a accouché très très grands écrivains. En France, Roland d'Angelès, par exemple, Henri Barbusse, des auteurs comme ça qui ont écrit d'immenses romans sur la guerre et qui se sont révélés comme écrivains via la guerre. Qu'est-ce qui génère le plus d'histoires depuis l'aube de l'humanité ? L'amour et la guerre. C'est les deux situations où nos sentiments sont les plus élevés, on va dire, ou les plus forts, en tout cas, les plus marquants. Et à un moment donné, il faut extérioriser ça.
Très bien, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci. Très bien, merci beaucoup. Ouais.
C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette chronique qui met en avant le rôle du cinéma dans la transmission de l'histoire. Aujourd'hui, le thème de la Première Guerre mondiale est mis à l'honneur, alors nous voici, avec Julia et Louise, pour vous présenter un film témoignant du vécu de cette guerre. Bonjour les filles.
Bonjour.
Louise, ne nous fais pas plus attendre. De quel film allons-nous parler aujourd'hui ?
Eh bien, de Un long dimanche de fiançailles. Sorti en 2004, il a été réalisé par Jean-Pierre Jeunet et c'est une adaptation d'un roman de Sébastien Japrisot. On y retrouve notamment Audrey Tautou dans le rôle de Mathilde, la personnage principale, ainsi que Gaspard Ulliel dans le rôle de son fiancé Manek.
Merci beaucoup pour cette introduction. Maintenant, pour nos auditeurs qui n'auraient pas vu ce film, on va vous expliquer brièvement de quoi il parle. Un long dimanche de fiançailles retrace l'histoire de 5 soldats condamnés à mort pour mutilation volontaire. Parmi eux, on compte Manek, un jeune soldat landais originaire de Bretagne, fiancé de Mathilde. Tous deux sont très amoureux.
Les 5 soldats condamnés sont conduits dans une tranchée nommée Bingo Crépuscule, puis lâchés dans le No Man's Land, entre la tranchée française et la tranchée adverse. Visiblement, tous sont morts, soit dans la nuit, soit le lendemain lors d'une attaque française où les Allemands ont violemment riposté. Même si tout prouve le contraire, Mathilde est persuadée que Manek est encore en vie. Alors, bien qu'elle soit l'une des seules à être persuadée qu'elle finirait par retrouver Manek en vie, et malgré de nombreuses preuves, dont l'avis officiel, qui prouve le décès de celui qu'elle aime, Mathilde va se démener afin de trouver de nouvelles preuves, des témoignages, etc., qui vont lui permettre de comprendre ce qu'il s'est passé ce jour-là. Peu à peu, tout va se dénouer et Mathilde va finir par découvrir le sort de Manek et donc ce qu'est devenu son fiancé.
En effet. Et donc, tout au long du film, on suit l'enquête de Mathilde qui déroule pendant l'après-guerre, ou ce qu'on appelle aujourd'hui l'entre-deux-guerres, avec de nombreux flashbacks nous permettant de voir la vie dans les tranchées et le front de l'après-guerre en général. Yulia, qu'as-tu pensé de ce film et de son approche ?
Ce qui est agréable dans ce film, selon moi, c'est surtout le fait qu'il ne se déroule pas uniquement sur les fronts, ce qui le rend plus léger que les autres films traitant le sujet tout en gardant l'aspect horrifique de la guerre puisqu'il raconte l'histoire de soldats exécutés injustement.
Oui, c'est vrai, ce film a cette force de parvenir à représenter la réalité des combats dans toute sa laideur, mais la place accordée au sentimental le rend malgré tout assez facile à regarder. L'autre grande qualité de ce film, c'est qu'il montre également que pour de nombreuses personnes, la fin de la guerre n'a pas marqué la fin du calvaire. Beaucoup de personnes ont perdu des proches, voire n'ont jamais pu savoir avec certitude ce qui leur était arrivé. C'est l'exacte situation de Mathilde, qui refuse de croire que Manek est mort et qui remue ciel et terre pour le retrouver. Son personnage, au travers de qui on découvre la réalité des tranchées, révèle au fil de son enquête l'injustice dont peuvent faire preuve certains officiers, ainsi que l'indifférence des soldats, bien que sa vision reste voilée par l'espoir. Ce film dépeint bien sa détermination, mais également sa détresse lorsqu'elle perd espoir de retrouver son fiancé. Malgré tout, ce film n'est pas exempt de critiques. Certains diront que le sentimental est trop présent et que l'image n'est pas suffisamment qualitative, mais cela ne retire pas grand-chose à l'histoire.
Absolument pas, d'autant que les sentiments sont ce qui rend l'histoire touchante. Et le côté jaune du film peut rappeler, si vous voulez mon avis, les vieilles photos en noir et blanc qui nous sont parvenues. Cela fait partie du charme du film.
Je suppose que cela pourrait se discuter, mais pour ma part, je suis plutôt d'accord. Ce film n'est pas parfait, mais il a un charme indiscutable et est capable de retranscrire efficacement le vécu de la Première Guerre mondiale et de l'après-guerre sans pour autant complètement noircir l'ambiance.
C'est une conclusion ?
C'est une conclusion.
Eh bien, parfait.
J'espère que cette chronique vous aura plu à toutes et tous et nous allons laisser la place à la rubrique suivante.
À présent, nous allons faire parler les personnes constituant le tableau « Les joueurs de skat » de Otto Dix. Ce dernier était un peintre et graveur allemand, associé au mouvement artistique du réalisme magique et au courant artistique de la nouvelle objectivité. Né en Allemagne en 1891, il a connu une période clé dans l'histoire européenne, marquée par les deux guerres mondiales. Dix a servi dans l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale, une expérience qui a profondément influé son œuvre artistique. Il a été témoin des horreurs des tranchées, de la dévastation et de la violence de la guerre, des thèmes récurrents dans son art ultérieur. Après la guerre, Dix est devenu l'une des figures majeures de la nouvelle objectivité, un mouvement artistique qui cherchait à représenter la réalité crue et à critiquer la société allemande de l'époque. Sa carrière artistique s'est poursuivie pendant la montée du nazisme en Allemagne et il a été persécuté par le régime en raison de ses œuvres jugées dégénérées. Les joueurs de skat est l'une des œuvres les plus célèbres d'Otto Dix, peinte en 1920. Ce tableau dépeint trois soldats allemands jouant au skat, un jeu de cartes traditionnel allemand, dans un intérieur sombre et austère. Les personnages sont représentés de manière réaliste et détaillée, reflétant les séquelles physiques et psychologiques de la guerre. Les visages des joueurs sont marqués par la fatigue et la détresse, et les vêtements décrépits soulignent les conditions difficiles auxquelles les soldats ont été confrontés pendant la Première Guerre mondiale. Les cartes de skat sont disposées de manière à former une composition géométrique complexe, accentuant la tension et l'atmosphère pesante de la scène. Ce tableau est souvent interprété comme une critique profonde de la guerre et de ses effets dévastateurs sur les individus. Son œuvre reste un témoignage puissant de l'impact des conflits sur la psyché humaine et de l'engagement de l'artiste envers une représentation réaliste et expressive de son époque.
Peu de temps, je me trouvais moi aussi sur ces champs de bataille. Plus précisément sur ceux de la bataille de la Somme. Mon corps avait en effet servi dans l'unité 14, une unité qui m'avait placé en première ligne, au premier rang de ce massacre. Je pouvais encore entendre les phrases de mes amis me répétant « Tout ira bien, Eric. On s'en sortira. Chacun de nous disait cela. Et voilà le résultat. À présent, je me retrouve là, entouré de deux autres hommes qui avaient vécu une histoire similaire à la mienne. Sur cette table où l'on joue au skat, j'essaye de me sentir normal, comme avant. Cependant, je ne peux nier ce qui m'est arrivé et l'état de mon corps à présent. Je sens encore la douleur que j'ai ressentie lorsque, démuni de mes bras et de mes jambes, ce soldat adverse détacha une partie de mon cuir chevelu. Une partie de mon corps qui fut pour lui un trophée de guerre et pour moi une humiliation. Mon souhait fut donc que ce scalp ne soit plus un signe d'humiliation, mais de bonheur. C'est pourquoi je me fis faire un tatouage en mémoire de ma femme. Elle resta ainsi tout près de moi. À présent, je vois et perçois le monde d'une toute autre manière, puisque la guerre m'a ôté un œil et une oreille. La peau, auparavant lisse de mon cou, a-t-elle aussi disparu. Malgré cette défiguration causée par la guerre, je continue à porter cet uniforme. J'étais peut-être revenu vivant de ce cauchemar, mais ce conflit ne pourra jamais quitter mon esprit. Ne pouvant tenir mes cartes, comme chaque homme le ferait aujourd'hui, il ne me reste plus que mes dents et ce socle. J'avais joué. C'était au tour de cet autre soldat allemand. Je le regarde, de mon œil valide. Lui aussi avait souffert de cette guerre. Nous étions donc trois hommes, trois anciens combattants, appelés par la société les gueules cassées.
À moi de parler maintenant. Je m'appelle Maximilien Wenger, j'étais officier dans la Wehrmacht. Je suis fier de m'être battu pour mon pays, l'Allemagne, et d'autant plus que le peintre Otto Dix m'est représenté avec deux autres soldats sur un de ses tableaux. Je me situe à gauche de l'œuvre. J'ai subi de nombreuses opérations suite à la perte de plusieurs membres. J'ai été brûlé au visage par des éclats de but. L'un d'eux m'est arrivé dans l'œil gauche et j'ai donc perdu mon œil. Perdre mon œil pour mon pays, pour moi je prends cela comme une fierté, une preuve de mon engagement. Mon visage a de nombreuses cicatrices. J'ai perdu l'audition et on m'a donc par la suite mis un tuyau pour entendre les conversations. Ce tuyau se situe en dessous du peu qu'il me reste de mon oreille droite et je le pose sur la table. J'ai perdu mes deux bras, mais l'on m'a greffé un bras artificiel. Ce n'est donc pas facile pour moi tous les jours. J'ai été amputé d'une jambe qui a gangréné suite à une balle dans la cuisse. Mais il me reste encore un membre, qui est ma jambe droite. Cette jambe me sert, comme sur le tableau d'Otto Dix, à jouer aux cartes, et c'est une grande fierté pour moi.
Cela fait maintenant plusieurs jours que je suis sous la terre avec mes deux compagnons. Le temps passe et s'écoule aussi lentement que les cris incessants de nos camarades, risquant leur vie au front. Pour ajouter un peu de couleur à cette vie morose, nous avons décidé de commencer une partie de skat. Ma main gauche articulée me lance et je me promets que, lorsque la guerre sera finie, je m'autoriserai à racheter une nouvelle prothèse pour la droite. Il faudra aussi que je change ma mâchoire, car elle commence à rouiller. Pas étonnant vu la qualité du métal. La lumière jaune de la lampe en face de moi atténue l'horreur du visage de mon compatriote, criblé par les balles et me rappelle sans cesse à quel point la lune me manque. L'odeur du bandeau en cuir, posé sur mon nez, me rappelle l'effluve de la pluie sur la route noire de pétrole. Je sais bien que cette guerre n'est pas finie, mais je me languis de retrouver la sensation de la brise fraîche sur mon visage. Maintenant en forme, à cause des attaques de la bête qui depuis des mois nous déchire de ses mille dents. Une chose que je crains est le retour, si je reviens. Dans l'attente, j'angoisse des regards que ces vautours vauriens me lanceront, se cachant derrière leur visage d'ange. J'imagine les enfants courir dans les rues, avec la douce musique de leur rire, résonnant à peine dans ma tête. Je me rappelle que je ne pourrai plus jamais courir, moi aussi, mais au moins je suis vivant. Ô ma belle femme, toi qui m'écoutes, n'oublie pas cet amour que je te porte tant.
Cette émission se termine par une enquête sur la commémoration à Liffré, des idées de lecture et des remerciements pour toutes les personnes qui nous ont aidés.
Et tu sais, Jamy, hier je suis allé aux archives départementales de Rennes et j'ai trouvé un ancien document datant de 1920. La commande du monument aux morts de Liffré, passée entre le maire de Liffré de l'époque, Victor Béneux, et Joseph Petit, un entrepreneur de Saint-Hilaire.
Ah oui ? Et alors, que dit-il ?
Si tu veux le savoir, rendez-vous devant le monument aux morts au cimetière de Liffré.
On apprend que ce monument a été commandé le 29 octobre 1920.
Il a coûté en tout 9 980 francs.
Il est en granit et haut de 5,70 m. Il est écrit « Honneur et patrie » et à la mémoire des enfants de Liffré est mort pour la patrie en lettres d'or.
Sur la face principale, on voit en saillie un casque de poilu, un drapeau, une palme et des couronnes.
Juste là, tu vois.
Oh, c'est que j'en apprends tous les jours. Et si on demandait à ce petit s'il sait ce que c'est la commémoration ? Eh, viens là, petit.
Coucou jeune homme, sais-tu à quoi sert cette grosse pierre en face de nous ?
Non, pas vraiment.
Ce n'est pas grave, on va te raconter. Ça, tu vois, ça sert à commémorer, c'est-à-dire se rappeler, ensemble, des personnes qui nous permettent d'être là aujourd'hui pour ne pas les oublier. Par exemple, ici, ces 160 noms sont ceux de nos ancêtres qui se sont battus pour nous pendant la Première Guerre mondiale.
Waouh ! Ils ont fait la guerre !
Oui, et tu peux retrouver des hommages à ces gens un peu partout, dans ton école par exemple, dans un livre d'or. C'est un recueil dans lequel on retrouve l'histoire des anciens étudiants de ce lycée ayant donné leur vie pour la patrie. Aussi, dans les églises, les paroisses ont fait inscrire les noms de ces soldats morts sur des plaques murales.
Waouh, c'est carrément la classe.
Et oui, aussi, la grand-mère de ta maman a elle aussi participé à l'effort national, dans les usines par exemple. Et aujourd'hui, les grandes avancées des droits des femmes, nous n'oublions pas que c'est en partie grâce à elle.
Elle était trop cool, mon arrière-grand-mère. Merci pour toutes ces infos.
Pas de souci, bonne journée. N'hésite pas à écouter Simone Honner, on parle beaucoup de la commémoration ici. D'ailleurs, je leur laisse la parole.
Merci Fred, toutes ces infos étaient super à écouter. Nous aussi, on a bien travaillé en interviewant Monsieur Melot, passeur de mémoire de la ville de Liffré.
Comme dans toutes les communes de France, et cela depuis 1922, une cérémonie est organisée à Liffré le 11 novembre pour rendre hommage aux morts.
Cette cérémonie à Liffré est organisée par l'Union Nationale des Combattants, l'UNC Liffré, dont le président est Francis Guillard. Ils sont présents des élus comme le maire Guillaume Béguet ou son adjoint chargé des commémorations. Il y a aussi des jeunes car les organisateurs tiennent à inclure les enfants et adolescents à cette cérémonie. D'ailleurs, comme les écoliers et collégiens de Liffré, des élèves de notre lycée ont lu des textes lors de la cérémonie tel l'émouvant poème écrit en 1915 par le major John McCrae in Flanders Field.
Nous avons interviewé un membre de l'UNC Liffré, Jean-Bernard Melot, qui est fortement lié à la Première Guerre mondiale par son héritage familial.
Lui ne participe pas à l'organisation de la cérémonie du 11 novembre, mais transmet la mémoire des guerres et de ses victimes dans les écoles, collèges et lycées pour qu'on ne les oublie pas. Lors de son interview, il a voulu nous passer un message. Il incite les jeunes à aller aux cérémonies commémoratives dans leur ville. Cela fait énormément plaisir aux anciens combattants présents. Il les touche de voir des jeunes impliqués, car leur rôle est de passer le flambeau de la transmission de la mémoire. Toutefois, il nous a fait remarquer qu'au niveau local, pour son plus grand plaisir, les jeunes sont de plus en plus nombreux à participer à la cérémonie du 11 novembre. Nous remercions Monsieur Melot de nous avoir donné de son temps et nous reconnaissons l'importance de sa mission de passeur de mémoire encore plus dans le contexte actuel.
Pour clore cette émission radio, nous allons vous conseiller la lecture de la bande dessinée Chien bleu, chien gris et Notre mère la guerre. Dans sa bande dessinée Chien bleu, chien gris, Léo retrace l'histoire touchante de son aïeul, un soldat de la Première Guerre mondiale qui était dans l'armée française, à travers le journal quotidien que celui-ci a rédigé dans les tranchées. Il va donc partir au front de manière optimiste parce qu'il pensait qu'il allait partir à la guerre pour une courte durée. Mais au repos suite à une blessure, il rencontrera une femme dont il tombera amoureux. Mais leur amour impossible se soldera par le mariage de cette femme à un autre homme. Ça va le conduire à perdre chaque jour un peu plus de sa joie de vivre et il va finir par malheureusement mourir au front en ayant tout perdu au bout de 2 ans de combats acharnés.
Le titre Chien bleu, chien gris a été bien choisi parce qu'il permet de décrire la perte d'humanité progressive des soldats qui sont condamnés à se battre comme des chiens pour leur vie. Le bleu représente l'uniforme des soldats français, alors que le gris représente celui des Allemands. On retrouve la symbolique des couleurs tout au long du récit, avec la présence de tons rouges et orangés lors des combats, qui représentent la violence, la colère et le sang versé, ainsi que des couleurs bleues et ternes lorsque l'action se déroule dans les tranchées, qui symbolisent la tristesse, la morosité et la mort. C'est une bande dessinée courte mais très intéressante. Elle a de beaux graphismes qui véhiculent très bien les émotions. On vous la conseille fortement.
La seconde BD que nous avons choisi de vous présenter est Notre mère la guerre. Elle est parue en 2010, ses dessins ont été réalisés par l'illustrateur Iséroi Maël. Et le scénario a été rédigé par Chris, un BDiste brestois que notre classe a rencontré en janvier 2024.
Notre mère à la guerre est une plongée effarante dans cette folie humaine que représente toute guerre. C'est une très bonne BD pour transmettre le vécu de la Première Guerre mondiale. En effet, cette BD se déroule dans les tranchées où l'on y suit un groupe de poilus, des mineurs à peine sortis de prison. Plus l'histoire avance, plus on en apprend sur comment la vie se déroulait dans les tranchées et comment les soldats y vivaient, ce à quoi ils étaient confrontés. On suit aussi un officier, un ancien policier dans le civil et un gendarme dans l'armée, qui se retrouvent envoyés sur le front durant le premier hiver de la Première Guerre mondiale, pour résoudre une bien étrange affaire. Plusieurs femmes sont retrouvées assassinées dans les tranchées en première ligne.
Nous tenions à remercier les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette émission. Vanessa Barnard des archives départementales de Rennes qui nous a préparé et joliment exposé les documents sélectionnés par nos encadrantes. Le scénariste de BD Chris qui est venu rencontrer notre classe et nous expliquer comment il travaillait pour réaliser ses BD sur des thèmes historiques comme la Première Guerre mondiale et comment il faisait pour rendre compte du vécu des périodes passées. Le dessinateur Léo pour s'être prêté comme Chris au jeu de l'interview en acceptant de répondre à nos questions.
Le membre de l'UNC, Jean-Bernard Merlot, qui a partagé ses connaissances sur la commémoration à Liffré avec le groupe en charge de cette rubrique, les bénévoles du cinéma de Liffré, notamment Brigitte et Anne-Marie, pour nous avoir conseillé sur les films sur la Première Guerre mondiale, la direction de notre lycée, Monsieur Doucet et Madame Chris Meas, pour avoir soutenu notre projet radio et rendu possible la visite aux archives et la rencontre avec Chris, ainsi que la documentaliste Madame Lequin et notre professeure d'histoire, Madame Michelet, pour avoir eu l'idée de cette émission et nous avoir aidés dans sa réalisation.
Et pour finir, voici par rubrique le nom des élèves 208 qui vous ont accompagnés durant cette émission.
Enzo et Lohan pour l'introduction.
Pour le micro-trottoir, Clara,
Faustine
et Martin.
Reportage sur la vie de Victor Bouland réalisé par Jules,
Mayouen,
Ninon,
André,
Hélène.
Interview fictive sur la vie des femmes à l'arrière avec Lara,
Anaïs,
Elven,
Morgane
et Manon.
Pour la guerre en chanson,
Laura,
Noélie
et Loéban.
Pour l'interview de Chris et Léo et les conseils de lecture, Naïma,
Mélina
et Alan.
Pour la rubrique cinéma, Louise,
Alban et Julia.
Faire parler les œuvres réalisées par Emma,
Abigail,
Louisa
et Léa.
L'enquête sur la commémoration réalisée par Alexis,
Marius
et Jules.